Bonsoir à tous, c'est Le Rendez-vous, saison 4 déjà, et ce soir, deux plateaux pour des invités liés par une certaine idée de la discipline. 19h15, plateau exposition avec Emma Lavigne et Christine Massel qui co-signent Danser sa vie, c'est au Centre Pompidou. Une exposition qui revient sur les influences croisées entre art plastique et danse et vice-versa, de 1900 à nos jours. Manu Farine.
Oui, un parcours qui place la danse au centre de la révolution moderne, mais qui place par son titre, qui se place sous le signe d'Isadora Duncan, c'est-à-dire de la danse comme expression de soi.
19h30, plateau performé avec Jérôme Gamme, écrivain sonore, où les influences croisées de l'écriture cinématographique et du langage poétique placé sous le signe du bégaiement cher à Gilles Deleuze. 19h45, la session sera Norvège avec Théa Hjelmeland. La programmation est signée Mathieu Conquet, qui est très fier de moi, car pour une fois, j'ai prononcé correctement. Correctement. Il fallait bien que ça s'arrête. Le nom de son invité.
Théa Hjelmeland, une découverte avec un premier album bluffant, intimiste et lyrique, qu'elle qualifie du pop acoustique bleu. On écoutera deux compositions en direct.
Mais tout d'abord, on ouvre avec l'actualité culturelle. Le journal de la culture, c'est le dossier international de Xavier, puis les brèves de Benoît.
19-20, le rendez-vous.
Plateau sonore et performance, donc on reste un petit peu de ce côté-là avec vous, Jérôme Gamme, poète, performeur, écrivain sonore, on devrait dire, depuis le début des années 2000, avec une œuvre qui travaille la prise de parole, véritablement, jusqu'à l'origine même, autrement dit au fond de la bouche, avec le micro bien enfoncé. Les sujets sont des réflexions sur la littérature, le plus souvent liées aux images, au cinéma, dans des collaborations avec des plasticiens, des vidéastes, je pense notamment à La Fille du Far West, que vous avez co-signé avec Jean-Luc Vernat. Le livre est aux éditions Macval. D'abord, avant même de vous entendre, quelle a été votre première prise de parole et de quoi était-il question?
Vous voulez dire comme...
Ah oui, pas comme enfant, comme, comme artiste. Je pense que c'était maman, quelque chose comme ça. Je ne me demanderai pas de remonter aussi loin, Jérôme Gamme.
Mais d'abord, je réagis sur l'énoncé, la prise de parole. Ouais. Parce que ça va pas de soi, en effet, en fait, prendre
la
parole.
Il y a une certaine violence dans le fait de prendre la parole.
Ouais. Oui, et puis comme si, du coup, d'une certaine façon, on n'avait pas envie de la prendre au sens où on pourrait entendre ce terme, c'est-à-dire s'exprimer soi-même, faire valoir ses positions, ses droits, etc. C'était plutôt le contraire. Et en même temps, lorsqu'on lit de la poésie, on s'adresse à un public et on le fait exprès, d'une certaine façon. On veut le faire. Donc c'est en même temps une prise de parole. Mais déjà, il y a cette notion-là. La vérité, je crois que c'était au Centre Pompidou et sans doute enregistré par France Culture il y a maintenant une dizaine d'années.
Oui.
Et donc, qu'est-ce que ça m'a fait? C'était ça la question? C'était
non. Quelle était la première prise de parole et de quoi était-il question dans ce premier poème performé, si c'était le cas?
Oh là. Il était question. C'était un texte. C'était sans doute ce qui est devenu mon premier livre, des manuscrits. Et il était question sans doute du corps, en fait. Il était sans doute question du corps et du rapport entre le corps et l'énonciation, entre le corps et le langage.
Est-ce que déjà, à l'époque, il était question de bégaiement, comme
oui.
Ça a été le cas par la suite?
Oui, dès le départ. Et ce n'était pas tant un projet que ça s'est imposé à moi, dans le sens où, justement, prendre la parole et énoncer était un peu problématique, n'allait pas de soi. Et je crois que c'est pour ça que j'écris, d'ailleurs.
Bégayer, c'est pour ça que je peux parler de prise de parole, parce que c'est vraiment faire preuve d'une certaine violence. Il y a un combat qui se livre toujours dans le bégaiement par rapport au texte qui doit être dit. Qu'est-ce qui ne passait pas?
Je crois plutôt que de bégayer le texte en le lisant.
C'est bégayer le langage, voilà, ça je suis bien d'accord.
Voilà, le texte lui-même bégayait, c'est-à-dire que c'est le langage qui bégayait. Bégayer le langage. Ce qui ne passait pas, je vais le dire de manière très, très abrupte, c'est Boileau. C'est les deux Alexandrins de Boileau. Qu'on connaît tous, enfin ceux qui sont allés souvent à l'école française, qui se conçoit bien, s'énoncent clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Ça passait pas. Ça passait pas parce que, et en même temps, je suis venu à aimer beaucoup cette histoire-là, cette folie-là, parce que j'essaie de la transformer en quelque chose qui peut me faire écrire et travailler. Ce qui passait pas, c'était cette notion de savoir à l'avance ce qu'on va dire. Bon, il se trouve que j'enseigne, et de temps en temps, c'est très utile de savoir ce qu'on va dire et que c'est important pour eux. Mais l'écriture, c'était de dire à la fois, je ne sais pas ce que je veux dire et j'ai envie de dire ce non-savoir-là. J'ai envie de dire que je n'en peux, mais que j'ai les fesses entre deux chaises. Et ce non-savoir, j'avais envie de pouvoir l'affirmer, de pouvoir le poser affirmativement. Et pour ça, j'ai trouvé aussi nécessaire de dire plusieurs choses à la fois. Plusieurs choses à la fois a l'air souvent d'être n'importe quoi.
Mais de le dire littéralement, hein, plusieurs choses à la fois. En effet, plusieurs phrases qui font se télescoper comme une sorte de montage cinématographique avec des ralentis, des accélérations.
Voilà. Vous avez eu tout à l'heure la générosité de parler de Deleuze en me présentant. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur Deleuze et lu Deleuze.
Il a écrit sur le bégaiement.
Il a écrit sur le bégaiement. Surtout, il a écrit sur un truc qui s'appelle le rhizome. Et le rhizome, c'est ce truc qui, cette herbe qui pousse horizontalement et donc quelque chose qui naît du milieu et qui fait, et je vois bien que la phrase fasse ça, comme un lombric qu'on coupe en deux et qui renaît et qui repousse. Et donc cette histoire, c'était ça du bégaiement. Comment dire plusieurs choses à la fois? Comment dire qu'on ne sait plus où on en est? Et comment essayer de faire naître le langage depuis l'intérieur du langage?
Autre question, peut-être plus Psychologie Magazine. Je me demandais si à l'origine de ce bégaiement, il y avait une cause médicale, par exemple, c'est une expérience personnelle, mais l'asthme, par exemple, est-ce que ça peut être à l'origine de ce bégaiement?
C'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'il se trouve que j'ai eu de l'asthme. Mais enfin bon, oui, alors je vois ce que vous voulez dire par rapport à Psychologie Magazine, mais j'ai eu pas mal d'asthme.
Parce que quand on a de l'asthme, il y a des questions de travailler sa voix, sa respiration, par des exercices corporels.
Oui.
Est-ce que c'est ce que vous avez...
Non, ça c'est venu après. J'ai pas identifié l'asthme comme étant quelque chose qui a causé ça. Par contre, quand je suis, ma mère est mexicaine et donc j'étais dans un contexte depuis ma naissance qui était plurilingue. Mais je crois franchement que ça a quelque chose à voir avec les injonctions qui sont présentes dans la langue française. Dans la langue française et dans son instruction, dans la façon dont on l'enseigne. Je crois que ça a à voir avec, sans en faire tout un flanc philosophique ou que sais-je, ça a à voir quelque chose de dire un gros mot de politique. D'où on parle et de se voir enjoint de parler. Je crois qu'on écrit contre, en tout cas moi j'ai écrit contre ça. Et c'était très important pour moi d'avoir cette tête de Turc, mais cette tension. D'ailleurs le premier livre s'appelait Tension.
Exactement, on va vous écouter dans une lecture performée, en tout cas une interprétation, La fille du Far West, Jérôme Gamme. Je vous laisse regagner votre micro, je crois que tout a été préparé. Un texte qu'on peut retrouver aux éditions Macval, co-signé, d'une certaine façon, avec le plasticien Jean-Luc Vernat, le casque sur les oreilles, au studio 168 en direct.
Avec parole d'apparition à l'écran, la fille du Far West, Cécile B. de 1915, le mari de l'Indienne, Cécile B. de 1918, le chèque, George Melford 1921, Shanghai Express, Joseph von Stenberg 1932, les trois lanciers du Bengale, Henri Hathaway 1935, La fille de Shanghai, Robert Fleuret 1937, En route vers Singapour, Victor Schätzinger 1940, Le mystère du château maudit, Georges Marsal 1940, Serpico, Sidney Lumet 1973, Chinatown, Roman Polanski 1974, Gatsby le magnifique, Jake Layton 1974, Le flic de Beverly Hills, Martin Brest 1984, Indiana Jones et le Temple Maudit, Steven Spielberg, 1984. Mission Impossible 2, John Woo, 2000. Jackass, le film Jeff Tremaine, 2002. G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, Stephen Sommers, 2009. Iron Man 3, Shane Black, 2013. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit Claudette Colbert, Cléopâtre, William Furman, Jules César, Henry Wilcoxon, Marc-Antoine. On voit John Carradine, un officier romain, David Niven, un esclave, Jeff Molly, un jeune patricien, Gary Cooper, le légionnaire Tom Brown, Marlène Dietrich, Amy Jolie, Douglas Dombrille, Mohamed Khan, John Carroll Nash, le grand vizir. On voit Dom Johnson, l'Indien tirant sur le piano, Ray Mala, l'Indien au cigare, Nestor Paiva, un conducteur de train. On voit Agostino Borgato, un gitan, non crédité. On voit Sammy Tong, un chinois dans l'avion, non crédité. Bruce Wong, un chinois, non crédité. On voit Moïse sauver des eaux, futur Ramsès II, la mer rouge coupée en deux, la terre promise. On voit la chanteuse de cabaret, le légionnaire Tom Brown s'enfonce dans le désert. On voit Cléopâtre aimer d'abord César, puis Marc-Antoine, puis se suicide après la conquête d'Octave. On voit deux anciens lanciers du Bengale dans l'embuscade de Mohamed Khan. On voit l'Union Pacific Railway tente de rejoindre L.A. S'avoue leur amour dans les difficultés, Dick est tué. On voit Josh Malone à l'aventure fuir sa vie dorée, l'aperçoit dans son numéro au fouet, peuvent enfin s'aimer. On voit la John Kitty prostituée en modèle de Gainsborough, séduit tout Londres et la haute société. On le voit d'abord vendeur dans une quincaillerie, employé de bureau, et l'acteur le plus populaire à la réussite éclair, se marie deux fois. Elle a 9 ans lorsque ses parents émigrent. À ses débuts, les ingénues, sa beauté à l'écran, sa silhouette est morte dans un accident d'avion. Il est nommé 5 fois tout en retenue. Lui ont valu d'interpréter les cow-boys ombrageux, brille dans la comédie légère. Son père est boxeur, a fini par devenir sa propre agence. Sa mère est mannequin, fabricante de corsets. ancien joueur de cornet, passe du temps à Paris, devient danseur à New York, atteint L.A. Après des débuts modestes, elle rencontre le grand producteur, la fait divorcer, la prend sous son aile. Se traîne langoureusement dans le sable, rejoindre G.P., rampe dans la boue en indienne, sa beauté fait merveille. À 36 ans, juste au corps, en aventurier du Dorset, en explorateur africain, en cow-boy texan, en dandy londonien, en chef hébreu, en colonel de l'armée des Indes, en commandant romain, en brune, en blonde, en cheveux noirs avec des couettes, elle est bronzée, elle teint pâle, les yeux clairs, les lèvres rouges, les yeux foncés. C'est à Hollywood, en Californie. C'est au 5555 Melrose Avenue. C'est à 34 degrés 5 minutes 0 secondes nord. 118 degrés 20 minutes seconde ouest. On voit le Hollywood Freeway à Western Avenue, le Kodak Theater, le Palladium. C'est une rue populaire qui s'étend de Santa Monica à Beverly Hills jusqu'à Hoover Street et Silver Lake. On voit Hollywood Boulevard, une Fontaine Avenue. On voit 1-1, naissance d'un studio. 1-2, une méthode qui fait ses preuves. 1-3, l'arrivée du sonore. 1-4-2, la guerre en toile de fond. 1-5, le sursaut. 1-6-1, les blockbusters, la vidéo. 1-7, le studio aujourd'hui. 1-7-4-3, la filmographie. 3-1, film primé. 3-1-1, Oscar du meilleur film. 3-1-2, Palme d'or. 3-1-3, Lion d'or. 3-2, film sélectionné pour préservation. 3-3, les plus grands succès. 3-4, les franchises. 4, 5, 6, voire aussi 6-1, article connexe. 6-2, lien externe. 6-3, source, notes et références. On est où là? Western, aventure coloniale, piraterie, comédie musicale, film de guerre, gangster, mélodrame, aventure dans la jungle, espionnage, cap et épée, aventure en Asie, vampire, slapstick, péplum, péplum biblique, road movie, zombie, complot politique, martien, mousquetaire, aventure en montagne, dans la jungle, en Afrique, intergalactique, aventure exotique, invasion extraterrestre, western spaghetti, thriller érotique, aventure aquatique, détective privé, avocat, Robin des Bois, empire romain, savant fou, space opéra, super-héros.
Jérôme Gamme dans une lecture donc de La Fille du Far West, mais on va pas pouvoir poursuivre l'entretien car en fait vous êtes lancé dans cette lecture, donc il faudra absolument en revenir. On va prendre rendez-vous à la fin de l'émission, Jérôme Gamme.